Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Oui, je sais, où est-il allé chercher un titre pareil? Bon, pardon. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Il y a ceux qui partent en vacances aux Seychelles, à Ibiza, à Saint-Tropez, au Touquet, au Gros-du-Roi ou au Croisic. Moi, j'ai beaucoup de chance car je reçois ce matin deux loustiques d'un genre particulier, du genre à prendre leurs vacances dans un centre commercial. Olivier Barrault, bonjour.
Bonjour.
Olivier Barrault, tout le monde vous connaît pour avoir animé pendant tant d'années une émission patrimoniale de France 3, Un livre, un jour. Même moi, j'y suis passé. Et vous venez ce matin nous parler d'une passion improbable qui guide vos pas vers la Suède. Alors, c'est pas tout à fait le Cap d'Agde. Et vous avez publié Boréal, donc un cri d'amour pour le pays de l'actrice Bibi Anderson. Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Offenstadt, vous êtes à la fois un historien, un scientifique et un grand malade, puisque vous consacrez toutes vos vacances à l'exploration d'un pays aujourd'hui disparu, l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande. Alors, je vous présente Olivier Barrault, Nicolas Offenstadt. Nicolas Offenstadt, Olivier Barrault, Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller sur France Inter.
Olivier Barrault, maintenant il est temps de tout nous dire. Pourquoi cet amour immodéré de la Suède? Pourquoi la Suède, Olivier Barrault?
Et pourquoi pas? Première question.
Très belle
après
réponse.
Tout, d'aucuns, et notamment notre ami Nicolas, se sont épris de l'Allemagne de l'Est, qui, à ses yeux, avait tous les charmes, recelait absolument toutes les secrets et toutes les tentations. Il faut bien reconnaître que d'autres ne partagent pas ce point de vue. Mais il passe ses vacances à Francfort-sur-Oder, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai été à Stockholm, capitale de la Suède, à maintes reprises, et surtout dès l'adolescence. Dans une époque que vous avez connue, Christophe, où la Suède apparaissait comme le lieu, le pays de toutes les libertés. À tous égards, pas simplement les libertés politiques, bien sûr, ou syndicales, etc., mais aussi la liberté de la vie privée, la liberté sexuelle. Et je suis allé dans ce pays, non pas tant pour y trouver la femme de ma vie, je vous rassure tout de suite, ça ne s'est pas passé, mais pour y découvrir un pays dont les modes de vie n'étaient absolument pas les nôtres. Nous, en Europe, c'est plus au nord, au sud, pardon, plus septentrional que la Suède. Et puis j'ai eu, effectivement, un coup de foudre global, pour quelqu'un qui, à mon avis, a représenté ce pays admirablement, qui est l'actrice que vous avez citée, Bibi Anderson.
Mais alors, attendez, on va revenir à Bibi Anderson, mais alors, finalement, on a l'impression que ce qui motivait votre désir de visiter Stockholm, la Suède, alors que les gens vont se baigner sur les plages l'été, c'était le désir d'aller à la rencontre de ce qu'on appelait le modèle suédois, c'est-à-dire, alors, la liberté sexuelle, mais aussi un modèle économique suédois.
Bien sûr,
et c'est un peu le modèle rêvé qu'a raté l'Allemagne de l'Est, d'une certaine façon, Nicolas Offenstadt. Est-ce que la Suède n'est pas une Allemagne de l'Est qui aurait réussi?
Oui, en tous les cas, c'est évidemment un modèle tentant quand on a envie de réformer, de faire des sociétés plus solidaires. C'est vrai que les échelles de salaire sont beaucoup plus restreintes que dans nos pays occidentaux. C'est vrai que le droit des femmes est bien plus assuré que dans nos modèles occidentaux. Donc, c'est vraiment des sociétés qui sont orientées vers le progrès. Donc, oui,
sauf que l'une est plutôt allée du côté d'une société répressive, l'Allemagne de l'Est, alors que la Suède, c'était quand même l'impression d'une espèce de tolérance, d'une liberté sans limite.
La Suède a effectivement été l'archétype de la social-démocratie qui fonctionne. La Scandinavie, d'ailleurs, en général, parce que c'est vrai aussi de la Norvège et du Danemark, et bien sûr de la Finlande aussi. Mais la Suède en a été un peu le porte-drapeau, d'autant que dans cette région de l'Europe, le pays leader, quoi qu'en disent les autres, c'est effectivement la Suède, qui a exercé d'ailleurs une certaine hégémonie.
Oui, parce que vous auriez pu jeter votre dévolu sur le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Finlande.
Bien sûr, et aujourd'hui l'Estonie, la Lituanie, etc. Non, mais la Suède est un pays qui a une très forte culture. Je ne dis pas du tout que ce ne soit pas le cas des Norvégiens ou des Finnois. Mais la Suède est peut-être plus en évidence. Et puis la Suède a énormément donné, à la fois au théâtre, au cinéma, à la littérature. Et comme vous le rappeliez aimablement, ce sont des sujets qui m'ont touché ou qui me touchent de près depuis très longtemps.
Alors, il y a aussi, de chez vous, Olivier Barrault, une fascination pour des artistes, pour votre promenade en Suède, c'est aussi une promenade à la rencontre de l'art sous toutes ses formes. Et il y a une actrice dont vous avez évoqué le nom qui vous a particulièrement touché, c'est Bibi Anderson.
Jag är med barn, Evald.
Är du säker?
Jag fick besked på provet igår.
Jaså? Det var alltså hemligheten.
En sak vill jag säga dig samtidigt. Den här ungen ska jag ha.
Det var klart besked.
Jo, det var det.
Alors elle ne commente pas les résultats du loto. Cela dit, je suis incapable de vous dire ce qu'elle dit précisément, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, Olivier Barrault et Nicolas Offenstadt, je ne parle pas suédois. C'est un extrait du film Les Fraises Sauvages de Bergman. Bergman que vous avez rencontré en Suède.
Oui, j'ai même eu le privilège d'assister pendant une journée au tournage de Fanny et Alexandre, film dont beaucoup de gens se souviennent et qui vient d'être adapté d'ailleurs au théâtre, à la Comédie Française. Et à l'époque, j'avais des fonctions... disons importante, à la télévision publique, qui était encore TF1 dans ces années-là, et nous avions le projet de coproduire Fanny et Alexandre, qui est à la fois un long métrage et une série. Je suis donc parti en Suède pour débattre de cela avec les producteurs, et j'ai eu ce privilège d'être admis sur son plateau par le grand Bergman. Je l'ai vu, je lui ai parlé, je l'ai vu à l'œuvre, sur un plateau immense, presque aussi grand que ce studio intime où nous nous trouvons, et je l'ai vu à l'œuvre, j'ai parlé avec ce type en anglais, dont l'état, évidemment, vous imaginez, de tétanie et d'un, vraiment de terrassement dans lequel j'étais, tellement il m'impressionnait. Il était pourtant très simple et très agréable. Et il se trouve que je me suis épris de la Suède en voyant le septième sceau de Bergman, interprété notamment par Bibi Anderson. Je me suis dit, c'est la plus belle femme du monde, et cette langue est d'une mélodie dont je pense que nos auditeurs ont pu prendre la mesure, à tel point que j'ai commencé d'apprendre la langue, par amour pour Bergman et pour son interprète.
Alors faites-nous goûter un peu le plaisir de Stockholm, parce que c'est la capitale de la Suède. Oui. Moi j'ai eu la chance d'y aller, donc je sais que c'est une ville où finalement les quartiers sont des îles,
oui,
ce qui
ça.
Est tout à fait surprenant, mais vous dites que Stockholm ressemble à Prague, mais dans votre langue, on a l'impression que Stockholm, c'est un prolongement de la France.
Non, même si la France a effectivement un rôle important dans l'histoire de la Suède, ne serait-ce que parce que la dynastie qui règne aujourd'hui en Suède, depuis le début du 19e siècle, est d'origine française. C'est la famille Bernadotte, le maréchal de Napoléon bien connu, qui, à la suite de circonstances assez baroques, a été en quelque sorte élu roi de Suède au début du 19e siècle, parce que le roi qui était en place d'ailleurs et qui restait un peu à un moment n'avait pas d'héritier. Ils ont élu un type qui venait de Pau, qui avait un fort accent du Midi, qui était un maréchal très courageux, très bel homme, etc. Et voilà comment Bernadotte, encore une fois maréchal de Napoléon, se retrouve sur le trône de Suède vers 1810. Et ce sont toujours les descendants de Bernadotte qui sont aujourd'hui installés sur le trône de ce pays. Mais au-delà de ça, c'est une ville, moi je trouve, extraordinairement séduisante, car elle a en commun avec Prague de recéler des quantités de petites artères qui sont, à mon avis, particulièrement poétiques à la nuit. Et puis, comme vous l'avez dit, Stockholm est construite sur des îles. C'est un point commun qu'elle a avec d'autres métropoles qui viennent immédiatement à l'esprit dès qu'on parle de l'eau dans les villes. Mais vous passez votre temps à franchir des petits ponts et je dirais que la particularité de chacune de ces îles est légèrement différente. Certaines sont plus bohèmes, d'autres plus bourgeoises. Et il y a un château royal au milieu, comme à Prague. Oui, c'est vrai, ça m'a fait penser à ça, d'une certaine manière, ce qui ne retire rien au fait que Stockholm se donne volontiers aux visiteurs, y compris aux enfants, avec le parc Skansen, qui est une pure merveille. Moi, je trouve que c'est une ville qui est irrésistible.
Nicolas Offenstadt, Olivier Barrault erre dans Stockholm, comme vous errez à travers l'Allemagne de l'Est. Ce sont pas du tout des destinations a priori touristiques. Alors, on va parler précisément de l'Allemagne de l'Est dans quelques instants, mais ce qui vous guette l'un et l'autre, ce qui vous irrigue, c'est l'esprit d'aventure, c'est l'envie d'aller là où les gens ne vont pas et de faire découvrir quelque chose de totalement surprenant.
À la fois, disons, personnellement et comme historien, d'abord, moi, j'adore les lieux. Vous savez, il y a des historiens qui vont aux archives, qui rentrent chez eux, qui écrivent leurs livres et qui sortent jamais. Moi, je suis le contraire de ça. J'aime aller voir, même quand il n'y a plus rien à voir. J'ai fait de l'histoire du Moyen-Âge, j'allais voir des lieux où il y avait absolument
plus rien. Ah oui, c'est génial.
On avait signé des traités de paix dans les années 1400, il n'y avait plus rien à voir. C'était un immeuble, c'était une rue tout à fait d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai besoin de voir, j'aime les lieux, j'aime me promener. Donc oui, il y a un goût de l'aventure, il y a un goût du plaisir de déambuler, il y a un goût d'aller, je comprends ce goût des petites artères dans des lieux.
Être face à un lieu vide et se dire, c'est là que s'est passé tel événement. Aujourd'hui, c'est un centre commercial, aujourd'hui, c'est un supermarché, mais c'est là qu'a eu lieu une bataille décisive.
Absolument.
Voilà, ce sentiment d'historien,
en fait. C'est là qu'a été, moi, j'étais dans le centre de la France, voir où était Daladier en prison, fallait passer par des ronces, etc. J'en ai toujours à chaque fois, parfois, la famille, donc c'est compliqué, hein, comme passion. Mais moi, j'aime les lieux, j'aime me promener, j'aime découvrir. Et je comprends aussi beaucoup l'amour d'Olivier Barrault pour ces pays nordiques. J'ai eu la chance d'enseigner en Finlande.
Ah, oui.
J'étais professeur invité dans une petite université qui s'appelle Tampere, et donc j'allais souvent à Helsinki, et j'ai eu aussi un peu ce goût de déambuler dans ces régions qui sont effectivement beaucoup plus riches qu'il n'y paraît à première vue. On a toujours une image un peu simpliste de cette Europe du Nord, et je comprends tout à fait ces sentiments. Donc oui, moi c'est vraiment ce goût de déambuler, de découvrir, et d'aller aussi, même quand vous allez dans des lieux qui sont a priori bien balisés pour les touristes, hein, je crois qu'on peut très vite s'éloigner des... Vous parliez de Prague, je suis allé plusieurs fois à Prague, comme beaucoup de gens, mais très vite, dès que vous sortez des sentiers battus, j'adore prendre à Prague des tramways, aller jusqu'au bout de la ligne, et voir des lieux qui ne sont pas ceux qu'il faut voir aussi, bien sûr.
Le vrai Prague, la ville nouvelle, la véritable Prague.
Ou ces petites rues un peu en moitié à l'abandon, moitié... Je fais ça absolument partout, surtout en Europe, et c'est vrai que c'est un rapport au lieu et un rapport à l'espace qui est très particulier.
Alors, une chanson littéraire, Olivier Barrault, c'est Clara Luciani qui interprète Bovary.
Je ne sais pas si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante. Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Estivalitude sur France Inter.
Olivier Barrault, Madame Bovary, c'est vous?
Non. Non, ça n'est pas moi, parce que je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas une passion pour Flaubert. Sauf dans les trois contes, la première, l'histoire de Félicité, cette histoire absolument sublime que d'ailleurs joue non moins admirablement, ou jouait la saison dernière Isabelle Andréani au Théâtre de Poche. Flaubert, parlons clair, m'a toujours emmerdé. Je n'ai jamais cru à cette histoire, jamais été ému par l'histoire de Madame Bovary. Je préfère l'éducation sentimentale qui est liée à des événements politiques tout à fait passionnants. Mais pour le reste, ce côté, la belle phrase, le travail, le machin, regardez comme j'écris bien, c'est pas du tout ma sensibilité.
Alors écoutez bien ce document et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose.
Ce gros livre de poche, c'est le 16e volume de l'œuvre romanesque complète de Georges Simenon. Georges Simenon, qui était né en Belgique et qui est mort en Suisse, est un des auteurs français les plus traduits dans le monde, car il écrivait une langue très simple, dans des intrigues linéaires, avec un regard toujours chaleureux et attentif envers les milieux décrits. Il y avait chez Simenon une sympathie implicite pour les gens modestes et une défiance extrême envers la richesse.
Alors d'abord, Simenon, c'est l'un de vos auteurs favoris, si j'ai, oui. j'ai cru le comprendre, Olivier Barrault. Et puis, Un livre un jour, c'est une émission qui a marqué les esprits, parce que c'est format très court, une minute pour un livre, qui permet finalement d'approcher un livre de façon très synthétique. C'est comme un pitch, on dirait aujourd'hui. Et alors, cette émission s'est interrompue en 2018. Vous l'avez vécue comme une injustice ?
D'abord, elle ne s'est pas interrompue. Oui. C'est moi qui ai quitté France 3 pour des raisons à caractère calendaire, chronologique. J'ai eu 70 ans l'année dernière. Non, oui, vous allez me dire, mais on ne le croit pas.
Ah non, non, vous ne
non, non,
pas.
Mais je suis né en 1948. J'ai 71 ans maintenant. L'année dernière, donc, en bon mathématicien que je suis, j'en avais 70. Et on m'a simplement demandé de prendre ma retraite, car sur le service public de télévision, ça doit être la même chose ici, Radio France, à 70 ans, vous vous retirez. J'allais dire que vous le vouliez ou non. J'aurais bien aimé que l'on me demandât de rester. Mais ça n'a pas été le cas. Mon entente avec la directrice des programmes n'était pas à l'époque idyllique. Et je suis donc parti, la mort dans l'âme, après 6000 émissions, effectivement, qui d'ailleurs, selon les années, duraient une minute et demie, deux minutes, jusqu'à trois minutes,
etc. Oui, ça varie
un
peu. Oui, oui,
ça a varié, les horaires ont changé tout le temps. Mais c'est vrai que vous parlez, c'est très élogieux, de patrimoine. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir... traduit en quelque sorte la production littéraire française pendant un peu plus d'un quart de siècle, ce qui est assez vertigineux. Quant à Simenon, tout à fait d'accord, c'est effectivement, en tout cas à mes yeux et apparemment aux vôtres, un des auteurs majeurs du XXe siècle, c'est l'anti-Flaubert. C'est-à-dire que ça n'est pas le travail...
Il nous emmerde pas, lui.
Non, et c'est surtout que... Oui, bien sûr, il nous emmerde pas parce que vous êtes à pied d'œuvre dès la première ligne. Et moi, j'adore cette espèce de brutalité qui vient du journaliste qu'il a été longtemps, brillant journaliste, et puis cette façon qu'il a de tracer des ambiances, ça plairait, je suis sûr que Nicolas Offenstadt est comme moi, en deux lignes, vous êtes dans le bistrot où ça se passe, vous êtes dans la rue obscure, vous êtes dans le lieu du crime... Et il vous présente les personnages avec, et ça c'est caractéristique de Simenon, une sorte non pas de sympathie, mais plutôt d'empathie, d'intérêt et de curiosité. Chez Simenon, tout le monde a ses raisons, y compris les plus abominables assassins.
Nicolas Offenstadt, vous aviez une question à poser à Olivier Barrault. Laquelle est-ce ? Laquelle est-elle ?
Évidemment, après ces 6000 émissions, je me suis demandé, c'est une question que je me pose pour moi-même, on se projette toujours un peu évidemment, si vous étiez amené à vivre, peut-être définitivement, sur une île déserte, et vous avez le choix d'emporter qu'une seule œuvre. Quand je dis pas un seul livre, hein, une seule œuvre, donc des œuvres complètes. J'aurais bien aimé savoir avec qui vous allez partir, sachant que c'est peut-être votre dernière lecture. Après, vous reviendrez plus. Vous allez rester sur cette île déserte. Pas de possibilité d'approvisionnement, puisque vous êtes aussi un voyageur.
C'est alors, une île est-allemande.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas l'île de Rügen ? Mais elle n'est pas déserte, voilà. Parce qu'au contraire, elle est très touristique.
Rügen, oui, c'est sûr. Ah, c'est évidemment, c'est toujours la question de l'île déserte. Alors, il faut... J'emporterai quand même des œuvres, enfin un auteur ayant donné beaucoup pour passer le temps, celui de l'éternité, qui dure toujours un peu longtemps, surtout à la fin, comme dit l'autre. Donc j'hésite entre deux, entre d'un côté, je vais prendre un auteur français qui est André Gide, et un autre qui est un auteur anglais, Charles Dickens. Avec peut-être un petit penchant pour Gide, parce que l'œuvre de Gide est polymorphe. Vous avez à la fois des essais, des choses extraordinaires comme ces récits de ce qu'il a vécu à la cour d'assises, puisqu'il s'intéressait aux faits divers. Il y a par ailleurs les grands romans, bien entendu, Le Journal, qui est insurpassable, en tout cas indispensable, sinon insurpassable. Puis la personnalité du type qui revient de l'URSS en 1936, un peu comme vous, cher Nicolas, et qui revient très sceptique sur ce que c'est que le stalinisme à l'œuvre à ce moment-là, et on sait l'influence considérable qu'a eu ce livre sur l'intelligentsia française et même européenne. Voilà, Gide, c'est comme quelqu'un l'a dit, le contemporain capital. Pour moi, c'est une évidence. Quant à Dickens, c'est le romancier par excellence. Je mets Dickens au-dessus des grands romanciers français qui lui sont contemporains. Je le mets au-dessus, tant pis, je me lance, de Stendhal, de Balzac, de Flaubert, parce que il me semble qu'il y a chez Dickens une universalité qui peut toucher absolument tout le monde. Ce type-là, il a parlé de l'enfance, il a parlé de la misère, ce sont des romans à la fois sociaux, des romans politiques, des romans de sentiments tout à fait magnifiques. Il a eu de surcroît cette qualité qui n'est pas française, qui est celle de l'humour, de la distance. Son premier roman, Pickwick, c'est un livre admirable, extrêmement amusant, extrêmement drôle. C'est un journaliste, faut pas oublier que les romans de Dickens paraissent chaque semaine dans des journaux. Ce sont des feuilletons. Moi, j'adore l'idée du feuilleton. C'est de la littérature littérature populaire. Mais dire de cela que c'est de la littérature populaire, c'est un éloge, ça n'est pas une critique.
Olivier Barrault, on vous a demandé quel était le son qui vous résumait. Moi, je croyais que vous alliez me dire, je sais pas, le bruit des tramways à Stockholm ou le clapotis de l'eau. Mais non, vous m'avez dit le troisième impromptu de Schubert par Vladimir Horowitz. Alors, on en écoute quelques instants. Vladimir Horowitz, c'est un peu l'antique Glenn Gould. Hein. Il y a les pianistes inspirés qui mettent leur âme sur les touches et puis ceux qui jouent avec la précision métronomique la partition.
Oui, j'ai hésité entre plusieurs versions de cette pièce pour piano que je tiens pour carrément la plus belle musique du monde. De toute façon, Schubert en général et en particulier les impromptus.
Et ça vous résume?
J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Mais ça touche à beaucoup de choses qui m'ont de tout temps captivé, nourri. D'une part, le monde germanique, bien que je ne parle pas allemand.
Dont on va parler dans quelques instants. Voilà,
bien sûr, avec Nicolas Offenstadt. Mais moi, j'ai toujours été très frappé par la musique, par la poésie, par la littérature, par la peinture allemande ou autrichienne. Là, en l'occurrence, c'est un compositeur autrichien. Et puis, d'une part. Et puis, d'autre part... Je ne sais pas l'allemand et je ne joue pas de piano. Ce que je préfère au monde, c'est la musique allemande jouée au piano.
Je trouve que c'est un très très bon résumé. Pourtant, je disais Serge Raffi qui disait de vous, c'est un ludion dandy toujours en mouvement. Quand je vous écoute là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un ludion dandy toujours en mouvement sur le plateau.
Ouais, écoutez, j'ai passé ma vie à voyager, ça m'a pas empêché de revenir pour produire et animer cette émission quotidienne pendant 27 ans. Mais je ne suis pas ennemi d'une certaine intériorité, d'une certaine poétique, je dirais, et en tout cas certainement pas de la poésie pour des compositions pour piano seul, telles que celles que nous venons d'entendre le début.
Alors, cap sur l'Allemagne de l'Est.
We'll be right back.
Bon, je vais essayer de prononcer correctement. 99 Luftballon, 99 ballons de baudruche, succès planétaire de la chanteuse de Berlin-Ouest, Nena, en 1983. Je me souviens, petite parenthèse, d'un concert punk auquel j'avais assisté à Berlin-Ouest, et les punks jouaient près du mur, et ils jouaient avec 200 volts de force pour que les Allemands de l'Est profitent du concert. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont dû réveiller à peu près tout Berlin-Est avec leur musique. Ce groupe s'appelait The. Alors vous l'avez compris, ce matin on visite l'Allemagne, oui, mais l'autre Allemagne.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Nicolas Hoffenstadt, vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vient de dire Walter Ulbricht, le fondateur de la République démocratique allemande en 1949.
Oui, il vient de souligner l'alliance de la classe ouvrière et des paysans pour la construction du socialisme.
Mais écoutez, c'est un beau programme. En tout cas, bon, vous avez vu qu'il était devant une foule absolument en délire. Alors moi, vous me surprenez beaucoup, Nicolas Hoffenstadt, parce que vous êtes un écrivain, vous êtes un historien très tatillon, et je me retrouve dans votre goût des traces de ce qu'on appelle la micro-histoire, d'aller glaner comme ça des pelures de papier un peu partout. Mais vous vous dites, j'ai visité 206 ensembles délaissés et en ruine, donc en Allemagne de l'Est, et tout ça de 2012 à 2018. Donc de 2012 à 2018, vous avez passé tous vos étés, tous vos congés, tous les moments de tranquillité à visiter des ruines en Allemagne de l'Est, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. J'ai eu la chance aussi d'y enseigner pendant 2 ans, parce que j'étais professeur invité à l'université de Francfort-sur-l'Oder, mais j'y suis aussi allé beaucoup, effectivement, pendant mes temps de libre ou sur mes temps de recherche, parce que effectivement, c'est une région que je trouve fascinante à visiter. Il y a énormément à voir. Et ces lieux abandonnés, il ne faut pas imaginer simplement des ruines ou quelques pierres sur lesquelles vous pourriez buter en vous promenant. Ce sont des ensembles qui sont souvent architecturalement extrêmement intéressants. Alors d'abord, il y a l'extérieur, parce que c'est une architecture qui va évidemment, même du 19e siècle, parce que l'Allemagne de l'Est a évidemment récupéré des usines, des entrepôts, des bâtiments administratifs qui venaient de plus loin. Elle en a construit aussi. Donc vous avez à la fois l'architecture allemande du 19e siècle, et puis vous avez aussi l'architecture moderne de post 45. Et surtout, ce qui est aussi très intéressant pour l'architecture, c'est que l'Allemagne de l'Est, comme d'autres pays socialistes, avait l'idée de faire ce qu'on appelait, je sais pas comment traduire le mot, un art qui est lié à l'architecture et à la construction. C'est-à-dire que sur beaucoup des immeubles qui ont été construits par la RDA, il y a des œuvres d'art, parfois par de très grands artistes. Ça peut être des mosaïques, ça peut être des peintures, ça peut être des bronzes.
Et tout ça est à l'abandon.
Et une bonne partie de tout ça est à l'abandon. Alors certains Allemands de l'Est commencent à s'en inquiéter, essayent de les recenser, essayent de les sauver. Il y a des mouvements en Allemagne de l'Est pour les sauver. Mais en vous promenant, vous voyez déjà toute une architecture tout à fait passionnante qui témoigne de l'histoire du socialisme post-45. Et puis ce qui m'a encore plus intéressé, au départ j'y suis allé un peu par hasard, c'est que je suis rentré une fois dans un de ces lieux abandonnés. Donc, et j'étais fasciné par tout ce qu'il reste à l'abandon dedans. Donc, il y a non seulement la visite de l'extérieur, mais il y a la visite à l'intérieur. Et là, je me suis retrouvé comme basculé. On était dans ces années 2012, je m'en souviens bien de cette première fois. Et on est comme en Allemagne de l'Est.
En 1958.
Ou dans les années 80, ça dépend des moments, effectivement. Et vous avez des appareils qui restent de cette époque-là, comme si on avait fermé l'usine en laissant tout dedans. Vous avez des archives, vous avez des objets personnels, parfois, des ouvriers ou des travailleurs qui sont restés dedans.
C'est là où vous êtes aussi, il y a chez vous, enfin c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, Le Pays Disparu, qui est sorti en 2018, puis il y en a un autre qui arrive à l'automne. Il y a un côté chineur fou, c'est-à-dire que vous faites toutes les brocantes d'Allemagne de l'Est, par exemple, et vous achetez tout ce qu'on vous propose, donc vous êtes très large dans l'acquisition.
Oui, pourquoi est-ce que je suis large ? Parce que je raisonne aussi comme un historien. Donc j'ai pas, vous voulez, une manie, j'assèche pas tous les stylos d'Allemagne de l'Est ou toutes les montres.
Enfin, vous avez acheté un papier d'emballage de l'Eskimo Baco, excusez-moi, et un manomètre bulgare.
Oui, ceux-là, je les ai piqués dans une usine abandonnée. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de limites, vous avez raison, dans les objets. Je prends tout ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, avec cette idée aussi de dire que ces objets, pour moi, doivent bâtir un récit. C'est-à-dire qu'ils m'intéressent parce que je vais essayer de reconstituer autour d'eux quelque chose qui a trait à l'histoire de ce pays ou à l'histoire de l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors, ce qui est aussi génial dans les brocantes, c'est qu'il y a l'achat. Beaucoup de passionnés de brocantes le savent, mais il y a aussi la discussion avec le vendeur. Et en réalité, les gens qui vendent dans les brocantes d'Allemagne de l'Est, vous savez, au fin fond de l'Allemagne de l'Est, il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, donc c'est pas pour les Japonais.
Ça, c'est sûr. Voilà. Ils vous connaissent bien, d'ailleurs.
Oui, ils finissent par me connaître, hein. Et, du coup, quand vous dites, quand à quelqu'un, moi, j'ai un accent français, j'essaie de le travailler, mais malgré tout, ils entendent très vite que je suis étranger dès que je parle avec eux. Et donc, du coup, ils me disent, pourquoi vous m'achetez mon vieux stylo? Pourquoi vous m'achetez mon coquetier? Ou des emballages, oui, effectivement, de sucre ou de pain. Et donc, je leur explique mon intérêt pour la RDA. Et là, je peux vous dire quasiment à chaque fois, ils me racontent leur histoire. Ils me disent où est-ce qu'ils ont trouvé ça, pourquoi ils avaient encore chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est un objet militaire, quand est-ce qu'ils ont fait leur service militaire, ce que ça représentait pour eux. Et donc, très vite, ces brocantes sont devenues pour moi des terrains anthropologiques. C'est-à-dire que non seulement j'avais l'objet qui m'intéressait, mais j'avais quelqu'un. D'ailleurs, je suis même tombé sur un historien d'art qui était spécialiste des maisons de la culture une fois. Donc, on a fini par parler entre collègues. C'était quelqu'un de tout à fait passionnant. Et donc, vous voyez, l'objet, finalement, déclenche beaucoup plus que la vente. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a il y en a même qui ont fini par m'en donner en me disant, ça vous intéresse, tenez, j'ai ça, je vous le donne. De toute façon, ils me l'auraient vendu 2 €. Et donc, du coup, ça crée un lien. Et il y en a avec qui c'était tellement passionnant que, après la brocante, je me suis mis sur un banc et j'ai pris des notes sur tout ce qu'il m'avait raconté.
Olivier Barrault, vous avez bien connu la République démocratique allemande, cette fameuse RDA qui a été détruite en 1989.
Mais bien sûr, j'y suis allé maintes fois avant la chute du mur, à la bonne époque autrement dit, époque que tout le monde regrette. Et je dois dire que le passage...
Enfin, je ne suis pas sûr que tout le monde regrette, on va en parler tout à l'heure. Sûr.
Non, c'était... je disais ça sur le mode humoristique, c'est-à-dire que il y avait quelque chose d'extraordinaire quand on franchissait le point de passage, le fameux checkpoint Charlie de la Friedrichstrasse, où on était d'emblée Berlin, dans un roman de John le Carré. Hein. C'était l'espion qui venait du froid, avec les vaupeaux, avec les chiens policiers, avec le chemin de ronde, les frises, les machins, et vous entriez. Et ça, c'était très frappant dans les années où j'ai commencé de fréquenter la RDA, la DDR, comme ils disent, c'est vous passiez d'un monde suréclairé, suriluminé, Berlin-Ouest, à un monde obscur, avec un éclairage de public extrêmement indigent, et des immenses avenues, Unter den Linden, par exemple, la Karl Marx Allee, désertes, sinon peuplées de quelques militaires, quelques soldats, etc. Ça, c'était formidablement intéressant. Est-ce que je peux poser une question à Nicolas Offenstadt?
Ah mais allez-y!
Je voudrais lui demander si, en toute logique, il roule en Trabant ou en Wartburg, qui étaient les bagnoles produites en Allemagne de l'Est et qui, je dois dire, nous faisaient sourire. Et d'autre part, plus sérieusement, s'il avoue une forme de regret, de nostalgie, comme on dit maintenant en Allemagne, de cette époque et de ce pays en particulier.
Alors, pour la première réponse, je vais répondre honnêtement aux deux. Alors, quand j'étais en Allemagne de l'Est, donc post-RDA, hein, à Francfort-sur-l'Oder, je me suis acheté une Wartburg. Je me suis acheté une Wartburg, toit ouvrant, hein, parce que ça vaut pas très cher, il faut le dire, par rapport aux voitures d'ici. Mais c'était un peu présomptueux de ma part. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça tombe très vite en panne. Et même à l'époque, il faut être bricoleur, il faut être un peu mécano pour avoir... Donc, j'ai un peu surestimé mes forces, et donc elle est tombée très souvent en panne. Et heureusement, j'ai trouvé des Allemands de l'Est qui me dépannaient. Alors, c'est assez intéressant, en fait, de rouler avec une Wartburg, parce que ça déclenche aussi ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au lien avec la brocante, c'est qu'avec ma Wartburg, les gens me parlaient, en me disant « Pourquoi vous avez ça ?» En plus, ils voyaient que j'étais français, etc. Et chaque fois qu'elle tombait en panne, ça, je peux vous le dire, c'est reste de la solidarité est-allemande. Il y avait toujours des gens qui s'arrêtaient. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si vous êtes en panne sur le bas-côté en France ou en Allemagne de l'Ouest, on s'arrêtera aussi facilement. Mais en Allemagne de l'Ouest, tout le monde savait qu'il fallait être solidaire quand il y avait des problèmes mécaniques. Donc oui. Alors deuxième question, pour être sincère, non, absolument pas. D'ailleurs, à l'époque, moi j'étais jeune, ça m'intéressait. Et pour tout vous dire, politiquement, à l'époque, j'étais beaucoup plus gorbatchevien. J'étais fasciné. Pour moi, je rêvais, quand j'étais jeune étudiant, dans les années 80, j'étais à Sciences Po au moment où le mur est tombé, et je rêvais d'un socialiste démocratique, peut-être plus celui que vous évoquiez
à la suédoise.
Et Gorbatchev, pour nous, j'étais pas seul, hein, c'était un peu un rêve, parce que c'était de dire, il va garder la dimension solidaire collective du communisme, et il va enlever tout ce que on détestait, évidemment, c'est-à-dire la répression, le manque de liberté, donc. Et vous savez que l'Allemagne de l'Est, au contraire, résistait énormément au gorbatchevisme, parce qu'ils pensaient que c'était, d'ailleurs finalement ils ont eu raison, mais en tous les cas de leur point de vue, ils pensaient que c'était au contraire un risque majeur, hein, d'effondrement du bloc de l'Est. Et donc il y avait un des responsables de la culture qui a eu cette phrase qui est très célèbre et qui fait sourire aujourd'hui, si les circonstances n'étaient pas tragiques, il a dit « c'est pas parce que votre voisin refait son papier peint que vous êtes obligé de refaire le vôtre ». Sous-entendu, c'est pas parce qu'il y a Gorbatchev qui réforme qu'on doit le faire. Donc vous voyez, c'est pas de nostalgie politique d'un régime que j'ai finalement jamais défendu.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter. Just fuckin'
Métronomie en 2019, Salted Caramel Ice Cream. Bah oui, je deviens totalement polyglotte. Glace au caramel salé, la programmation musicale rafraîchissante, bien sûr, est signée Muriel Pérez. Dans votre livre, Nicolas Offenstadt, et dans votre travail, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller à la rencontre d'une dictature disparue, parce que quand on s'intéresse de très près à quelque chose, eh ben, la tentation, c'est de lui trouver des excuses. Alors c'est vrai que vous, parfois, vous expliquez des choses. Par exemple, vous citez quelqu'un dans votre livre qui dit « Pour moi, le droit à la sécurité sociale était plus important que le droit de voyager. » Alors nous, on a de la chance en France, on a les deux. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est vraiment est-ce aussi juste que ça? Il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup choqué, très angoissante et presque métaphysique sur les gens qui vivaient en Allemagne de l'Est. On pouvait autrefois planifier son existence dans un contexte assuré. Quelle horreur!
Oui, quelle horreur ou pas? Parce que, évidemment, il y a tout cet aspect répressif, bien sûr, mais il faut quand même se rappeler ce que c'est que l'Allemagne de l'Est, après 45 et puis après 49, la fondation de la RDA. Il y avait évidemment un parti qui était stalinien, qui s'est construit avec, évidemment, sous l'égide de l'URSS, mais il y avait aussi beaucoup d'Allemands véritablement antifascistes, véritablement socialistes, véritablement communistes, qui voulaient construire une autre société. Ils sortent de quoi, les Allemands de l'Est? C'est pas pareil que les autres pays de l'Est. Ils sortent du nazisme. C'est des types qui ont été dans les geôles d'Hitler, c'est des types qui ont été...
Ou qui ont été dans l'armée allemande.
Certains aussi, mais pas les dirigeants. Peu les dirigeants. Les dirigeants, c'est souvent, très souvent, de véritables antifascistes, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent avoir été aussi staliniens, et peu importe. Mais si vous voulez, il y avait beaucoup de gens aussi en Allemagne de l'Est qui ont voulu bâtir un socialisme, jusqu'au bout d'ailleurs, qui y croyaient. Et d'ailleurs, qui dénonçaient le parti. Vous savez, en Allemagne de l'Est, c'est assez fascinant, mais les principaux opposants sont des gens qui sont communistes ou socialistes. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, c'était un régime qui le soit véritablement, pas comme celui que le SED, le Parti communiste au pouvoir.
Ils ont été déçus à la chute du mur de Berlin, oui. Dites-vous, parce qu'en réalité, ils auraient voulu une Allemagne de l'Est libre, et ils se sont retrouvés, ils ont passé à l'Ouest. Vous montrez, avec, c'est extraordinaire quand vous montrez quand les Allemands de l'Ouest arrivent et détruisent tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un vestige de la société d'Allemagne de l'Est. En même temps, vous citez Margot Honecker, la veuve des riches Honecker, qui elle-même est disparue aujourd'hui, qui était l'un des dirigeants d'Allemagne de l'Est, et elle définit les droits de l'homme comme le droit au travail et à la formation. C'est quand même extrêmement restrictif.
Non, bien sûr, il s'agit pas, si vous voulez, d'évaluer l'Allemagne de l'Est dans son ensemble, mais de dire que il y avait chez les Allemands de l'Est, chez beaucoup de gens, souvent à la base, mais pas seulement, l'idée que il fallait construire une société plus juste, une société protectrice après tout ce qui s'était passé à l'époque nazie. Et donc, il y a des choses qui sont objectives, c'est-à-dire que la protection sociale, le droit à l'éducation pour tous, vous savez, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais les dirigeants de l'armée est-allemande, c'est des gens qui étaient fils d'ouvriers, ça n'existait pas dans l'Allemagne impériale. Ou dans l'Allemagne de Weimar. Donc, il y a eu une transformation de la société avec aussi cette idée qu'il faut plus de solidarité, plus de protection. Et donc, évidemment, pour certains, c'était des valeurs qui étaient absolument fondamentales. Et d'ailleurs, il en reste quelque chose. C'est-à-dire que le système, par exemple, le système des crèches est encore bien plus protecteur aujourd'hui en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, où il y avait quand même un modèle féminin. Vous savez, c'était le taux d'emploi des femmes le plus important. L'Allemagne de l'Est. Donc il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un régime dictatorial, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui disent vous faites ça.
Vous dites quand même la République démocratique allemande, la RDA, nous lègue des montagnes d'archives et non des montagnes de cadavres.
Absolument. Et c'est une phrase qui vient pas de moi, mais qui a été beaucoup répétée. Oui, parce que ça vient de l'idée qu'on a comparé les deux dictatures allemandes. Un des grands discours en Allemagne après 1990, c'est de dire maintenant on va traiter le passé d'une double dictature.
Bah, disons qu'un pays qui enferme ses citoyens, qui les empêche de sortir, de voyager, est quand même un pays dictatorial.
Il y a aucun doute là-dessus. Oui, mais la question n'est pas là. La question, c'est de la comparaison avec le nazisme. C'est-à-dire l'idée de dire que ces gens de l'Est n'ont connu que des dictatures. Donc, qu'est-ce que ça veut nous raconter comme histoire? Ça veut dire il y a eu les nazis. De 33 à 45, et ensuite, à partir de 45, il y a eu d'abord la dictature soviétique, puis maquillée sous la forme de la RDA à partir de 49.
Et le plus étonnant...
C'est pour ça, il faut comprendre cette citation. Or, en RDA, on massacrait pas les gens, c'était pas des nazis.
Ce qui était très frappant en Allemagne de l'Est, dans la propagande, parce qu'on n'a pas encore évoqué ce mot, mais Dieu sait s'il est important, c'était ce qui était mis en évidence au premier chef, c'était la paix. C'était le pays de la paix, le pays qui avait rétabli, la paix civile, etc. Il est d'ailleurs assez paradoxal de constater qu'au fond, ça a été l'argument de Franco pendant un demi-siècle aussi. Pas tout à fait un demi-siècle. La paix, la fin des conflits, la fin des morts massives, etc., c'est tout à fait impressionnant. Et puis la deuxième chose qui était frappante, enfin parmi tant d'autres que Nicolas a expliqué dans ses livres, c'était l'appropriation d'un certain nombre d'Allemands illustres et grandioses, des gens qui avaient fait l'Allemagne et qui devenaient, par les vertus de la propagande, des Allemands de l'Est. Par exemple, Goethe, sous prétexte qu'il était de Weimar, qui était en Allemagne de l'Est, il était devenu un soutien par anticipation du régime. Même chose, enfin c'est extraordinaire, Bach, Jean-Sébastien, bon, qui était de Leipzig, comme on sait, autre ville de l'Allemagne de l'Est à l'époque, il était devenu, malgré lui, et trois siècles plus tard, le chantre de la République démocratique allemande. Je veux dire que cette appropriation était à la fois baroque et assez cocasse.
Et alors justement, je vous ai demandé la musique qui vous résume, ou en tout cas le son qui vous résume, Nicolas Offenthal. Je m'attendais au bruit du Trabant, au moteur du
l'international,
Trabant.
Hein, vous
je m'attendais
ça.
À l'international, je m'attendais à la voix mélodieuse de Margot Honecker, et pas du tout. Vous avez proposé l'ode à la joie, l'hymne à la joie de Beethoven. Pourquoi ?
D'abord, une raison sensible, je vous le raconte très vite. J'ai été il y a pas longtemps à Bruxelles. J'étais invité par les institutions européennes pour faire une conférence sur les mémoires de la guerre de 14. Est-ce que ça peut vous dire de l'Europe aujourd'hui?
Sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé
voilà.
aussi.
Et à la fin de la cérémonie, hein, il y avait aussi des choses plus officielles que les parties scientifiques, j'ai entendu l'ode à la joie. Et en fait, j'étais profondément ému dans ce moment de repli nationaliste. Dans ce moment où on a les pires discours sur l'autre, sur l'étranger en Europe, je me dis, mais cet appel à la fraternité, cette construction de l'Europe avec tous ses défauts, avec son caractère brinque-ballant, j'ai trouvé que c'était finalement quand même un idéal magnifique. Et donc du coup, je l'avais pas écouté depuis longtemps et ça m'a extraordinairement saisi. Je me suis dit finalement, avec cet idéal de fraternité qu'il portait au départ, est-ce que ça peut porter aussi de ce que vous parlez de l'Europe aujourd'hui ? Ben finalement, je me suis dit finalement, cette musique, elle me touche profondément.
La 9e symphonie de Beethoven, alors j'ai l'impression que je suis revenu à France Musique grâce à vous. L'hymne à la joie, bien évidemment, qui est aujourd'hui l'hymne européen. Alors attention, parce que maintenant, on arrive à un moment crucial de l'émission. C'est celui où vous nous racontez votre plus incroyable souvenir de vacances.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Olivier Barrault, qu'est-ce qui vous est arrivé en vacances ? Faites saliver nos auditeurs qui sont en vacances, enfin je l'espère pour la plupart d'entre eux.
20 août 1968, selon mes habitudes de l'époque, je suis de l'autre côté du mur, qui existe encore pour un moment, dans ma deux chevaux Citroën d'étudiant. Et je suis à Prague. Et les rumeurs courent depuis très longtemps que selon lesquelles il y aurait des conversations à Cerny, si mes souvenirs sont bons, entre d'un côté les soviétiques, Brejnev, et de l'autre le régime en place en Tchécoslovaquie, qui existe toujours, dirigé par le président Svoboda et son premier ministre, dont tout le monde se souvient évidemment. Une sorte de printemps de Prague non avoué. Mais on redoute beaucoup, on redoute ce qui va arriver. Le 22 août 68 ou le 21, je suis dans une auberge de jeunesse avec ma sœur et en bas dans le parking, la deux chevaux. À 5 heures du matin, des bruits étranges. On vient nous réveiller et on nous dit « Regardez, on descend et au-dessus de nous, un vol ininterrompu d'avions militaires. » C'était les avions de l'invasion. J'ai vécu l'invasion de Prague par, d'une part, l'aviation et d'autre part, les chars soviétiques. Évidemment, on descend, on a envie de voir, de comprendre, on nous explique, ils sont là, et nous descendons avec la deux chevaux vers la Vltava, la Moldau, le fleuve qui dessert la ville de Prague. Tous les ponts sont occupés par des chars. On voit dans les rues les fameux chars soviétiques qui sont des monstres, arpenter les rues en question. J'ai vu une manifestation sur la place Venceslas avec les chars soviétiques, le canon abaissé, menaçant la foule. Et nous étions là avec des quantités d'autres, des gens, des Tchèques et des étrangers d'Europe de l'Ouest d'ailleurs. Et on a eu très peur, parce qu'on a pensé qu'ils allaient tirer, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais j'ai vu ça, j'ai vécu l'invasion d'un pays, c'était il y a longtemps.
Bah écoutez, belles vacances. Hein,
j'oublierai
beau,
jamais.
Beau souvenir de vacances, c'est incroyable ce que vous nous racontez. Oui. Alors Nicolas Offenstadt, vous c'était où?
Bah, j'ose plus raconter des souvenirs tout à fait assez banals. Oui, c'est enfin tu es à la plage avec des glaces. Après tout ça, on peut plus raconter grand-chose, évidemment. Non, c'est plutôt un souvenir dans ce cas-là d'historien, ce qui vous donnera peut-être une légitimité à parler après ce moment émouvant avec Olivier Barrault. C'est assez récent, mais c'est vraiment un moment qui m'a été très poignant. C'est le centenaire de la Grande Guerre. Vous savez, moi, j'ai travaillé sur la guerre de 14-18 depuis des c'est décennies. Vrai. J'ai publié mes premiers textes il y a plus de 25 ans. Et puis, le centenaire, c'était quelque chose auquel on pouvait penser. Et puis, on se dit, mais c'est très loin, hein, ça n'arrivera jamais.
Et ça, vous l'avez vécu en vacances, le centenaire.
Ben oui, parce que c'est la guerre, si vous voulez, elle s'est déclenchée pendant l'été 14. Je n'apprendrai rien août à personne.
14.
Voilà. Et à un moment, il est arrivé, ce centenaire. Et puis, évidemment, beaucoup de choses, il a pris une importance très grande. Et du coup, beaucoup d'événements, d'émissions de radio, etc. ont été organisés. Et notamment, j'ai suivi le déroulé. Et j'étais notamment le 28 juin 2014 à Sarajevo. C'est-à-dire un siècle après cet événement absolument incroyable, hein, qui est évidemment l'assassinat du prince héritier austro-hongrois, qui est une des causes immédiates de la Grande Guerre. Et là, pour un historien, se retrouver à Sarajevo un siècle exactement après, et vous avez ce qui était fou, il y avait toutes les mémoires qui se trouvaient là, il y avait des nostalgiques de la monarchie austro-hongroise qui étaient encore avec les couleurs de l'époque, vous aviez des Serbes, vous aviez des Bosniaques, vous êtes un siècle après, à côté du exactement au lieu, et alors là, vous avez tous les temps qui se mélangent, et c'était le début, en quelque sorte, de cet été. Et puis ensuite, il y a eu toute la marche à la guerre, hein, jusqu'à sa déclaration. Et j'ai suivi cette étape-là. C'est une véritable plongée dans l'histoire, un siècle après, qui est pour moi un été extraordinairement troublant comme historien.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Barrault et Nicolas Offenstadt. Vous avez donc tous deux fait preuve d'estivalitude. Alors Olivier Barrault, je rappelle que votre livre « Boréal » paru chez Gallimard est toujours disponible. Nicolas Offenstadt, votre livre « Le pays disparu sur les traces de la RDA » est sorti à l'automne 2018. Et vous publiez en septembre un nouveau livre « Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est » raconté par ces lieux abandonnés. Alors vous pouvez bien entendu réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, et surtout la réalisation est signée par notre Juliette Medevielle, préparation Saad Merzak et Astrid Landon, et à la technique aujourd'hui Mathias Alléon. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Juste après le flash, vous retrouverez, comme de bien entendu, Laurent Delmas pour Ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain.